Bonjour à tous. Il existe un concept de la tradition juive qui demeure parfois assez méconnu, c'est celui de noachisme. La tradition nous apprend en effet que les enfants de Noé, les bnei noach, c'est-à-dire en fait l'ensemble de l'humanité, ont reçu sept lois spécifiques qui concernent jusqu'à aujourd'hui tous les peuples et toutes les nations. Alors je les rappelle brièvement pour mémoire. D'abord, il y a une obligation, c'est celle d'établir des tribunaux. Et puis, il y a six interdictions. Interdiction de blasphémer, d'idolâtrie, d'union illicite, d'assassiner, de voler et de manger la chair arrachée à un animal vivant. Depuis plusieurs années maintenant, le noachisme suscite un intérêt croissant dans le monde. Et à Jérusalem, il existe depuis plusieurs années un centre noachide mondial qui porte le nom hébraïque de Brit Olam, dont nous recevons aujourd'hui le directeur, le Rav Uri Cherki. Bonjour Rav Cherki.
Bonjour, shalom à tout le monde.
Alors, il n'est peut-être pas inutile de rappeler les contours de ce statut particulier que la Torah a prévu, donc celui du non-juif qui est intéressé à accomplir son existence à la lumière de l'enseignement d'Israël. Qu'est-ce qu'un Ben Noach?
Eh bien, disons que c'est un lieu commun du judaïsme de savoir qu'il y a un message universel à la Torah, étant donné que la Torah commence son récit par la création du monde, puis par la création de l'humanité, l'apparition des nations, et c'est seulement dans ce cadre-là qu'apparaît l'alliance particulière avec Israël. Et on pourrait dire même que l'idée de peuple élu comporte en elle une idée universelle, puisque pour être élu, il faut être élu parmi quelqu'un d'autre. Et donc, cela veut dire que, contrairement à l'idée que le judaïsme serait une loi tribale qui ne concernerait qu'une petite nation, en fait, bien, c'est exactement le contraire. La parole de Dieu est transmise par le canal d'Israël, c'est vrai, mais elle est destinée au monde entier. Étant donné qu'elle est destinée au monde entier, alors évidemment, chacun, selon sa sensibilité particulière, selon son identité, homme, femme, juif ou non-juif, ou prêtre, etc., sera concerné d'une manière différente. Mais en fait, c'est toujours la même parole qui s'exprime à travers ce message. Alors, comme vous l'avez bien dit, il y a les lois fondamentales qui ont été transmises à Noé, puis relancé, pourrait-on dire, par la loi mosaïque. Mais c'est cette loi dont vous avez parlé, en fait, semble être identique, plus ou moins, grosso modo, à la morale universelle. Et donc, on pourrait se demander en quoi est-ce que les nations auraient besoin d'une alliance particulière. Eh bien, c'est très simple. Alors que la morale universelle est motivée par des considérations morales, ça va de soi, c'est-à-dire je ne vais pas tuer, je ne vais pas voler, je vais faire du bien à mon prochain. Tout cela fait partie de mon identité humaine en tant qu'homme. Mais ça ne comporte pas la relation envers le créateur du monde. Or, à partir du moment où les préceptes de la loi morale sont considérés également comme des commandements de Dieu, de celui qui a créé le monde, cela nous met en contact direct avec la transcendance. On pourrait dire que le rôle d'Israël dans cette constellation, c'est justement de rappeler à la mémoire des hommes que ces comportements de moralité sont également voulus par le Créateur du monde, et c'est que c'est à travers cette relation morale que le Créateur se manifeste aux hommes.
C'est cela. Donc il faut bien comprendre que pour un certain nombre de gens qui, par exemple, respectent le fait de ne pas tuer, mais pour des raisons simplement de morale, j'allais dire naturelle, il faut voir que ce statut de Bnei Noach, enfin en tout cas l'idée des Bnei Noach, du noachisme, c'est de dire que on est commandé de faire cette interdiction, de ne pas faire cette action. Ce qui veut dire, ce qui est différent que de le faire naturellement. En quoi est-ce différent
Absolument.
finalement? En quoi est-ce différent?
Eh bien, disons qu'il y a toute une législation, pourrait-on dire. Le judaïsme est très législateur, comme vous le savez. C'est une législation qui est organisée autour de ces préceptes. C'est-à-dire, je ne vais pas tuer mon prochain. Bon, d'accord, ça, tout le monde est d'accord, on peut dire que c'est banal. Mais jusqu'où est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, dans un problème auquel sont confrontés les médecins? Je dois sauver une personne à l'hôpital. Et je n'ai le matériel que pour en sauver qu'une seule, alors que j'ai deux malades devant moi. Que dois-je faire? Ai-je le droit de déconnecter la personne pour brancher une autre? Est-ce que l'avortement est autorisé, interdit, l'euthanasie? Et puis, ça peut aller beaucoup plus loin. Tuer quelqu'un n'est pas forcément le mettre à mort, mais lui faire honte en public. Par exemple, devant un grand public, je dis « un tel a fait telle et telle chose » et qu'il blêmit. Alors, c'est comme si on avait versé son sang, dit le Talmud. Effectivement, le visage perd son sang et c'est également une manière de tuer son prochain. Et là, on peut rentrer dans une multitude de détails. Or, ces détails ont besoin justement d'être précisés. On a besoin pour cela de s'inspirer de la législation donnée à Israël. Évidemment, il ne s'agit pas de recopier les instructions talmudiques qui sont données au peuple juif, de les recopier pour les nations. Mais en tout cas, une forme d'inspiration est absolument nécessaire et nécessite donc des instructions des sages d'Israël.
Alors, si les commandements qui, pour les Bnei Noar, sont de nature transcendante comme celles qui sont données au peuple juif, comment s'articule le statut des Bnei Noar avec celui des Juifs? Pourquoi pas finalement un seul statut?
Eh bien, écoutez, tout le monde peut se convertir au judaïsme s'il le désire, mais est-ce que c'est souhaitable? Ce n'est pas toujours souhaitable, étant donné que être juif, c'est également une identité nationale qui est porteuse d'une certaine histoire, d'une certaine sensibilité. Ça ne convient pas toujours à tout le monde. Bien au contraire, celui qui nous a donné la Torah, le créateur du monde, a créé également 70 nations, 70 facettes de l'identité humaine, et il serait gravement impérialiste d'essayer d'imposer le profil humain des enfants d'Israël à toute l'humanité. Ça serait une forme de colonialisme. Alors que là, au contraire, il s'agit justement de ne donner que des instructions minimales, et après tout le reste s'adapte en fonction de la culture ambiante. Je vais vous donner par exemple un exemple une question qui m'a été posée. À partir de quel âge on est dans le devoir d'accomplir les commandements quand on est noachide? Eh bien, vous savez que pour les juifs, c'est 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Mais qu'est-ce qu'il en est, par exemple, d'un Soudanais ou d'un Philippin ou d'un Canadien, d'un Français? Alors, comme la question m'a été posée à la fois par des noachides des Philippines et des Noachides du Canada, eh bien, je n'ai pas donné la même réponse. Pour les Noachides des Philippines, j'ai dit l'âge de 14 ans. Parce que dans la société dont il est question parmi ces personnes-là, eh bien, c'est à l'âge de 14 ans déjà que l'on est capable de nourrir sa famille, de prendre la responsabilité de la vie. Et donc, 14 ans, c'est tout à fait possible. Par contre, dans la culture occidentale, celle du Canada, où l'on est un peu un enfant gâté jusqu'à un âge tardif, j'ai dit que 17 ans, c'est encore la limite. C'est-à-dire qu'à partir de 17 ans, on commence à être conscient du fait qu'on est un peu responsable de sa vie. Et c'est un exemple. Donc, vous voyez qu'il y a une adaptation faite pour chaque nation. De même, les modalités du mariage, les modalités de la vie commune, la pénalisation dans les tribunaux, tout cela est très différent en fonction de chaque contexte.
Alors, Rav Cherki, vous avez déjà publié un sidour, donc un livre de prières pour les Noachides, et vous avez aussi fait paraître un recueil de lois qui les concerne, donc qui va bientôt d'ailleurs faire l'objet d'une traduction en français. Comment ça se présente, ce Shulchan Aruch des Bnei Noach? Vous nous avez expliqué déjà comment la loi peut se déployer aussi pour eux. Comment vous avez conçu ce travail, cet ouvrage?
Bon, puisque vous avez parlé déjà du rituel de prière, le Sidour, alors bon, je vous le présente ici dans sa version hébraïque, il existe également en français, en russe, en anglais, en espagnol, et on peut se le procurer par l'organisation Brit Olam. C'est pas difficile, vous tapez sur votre ordinateur Brit Olam et vous trouvez comment l'acquérir. Mais j'ai également publié un recueil qui s'appelle Berit Shalom, qui a déjà été publié en russe, en anglais et également très bientôt en hindi et en espagnol, et qui actuellement est en cours de traduction en français. Et ce recueil a demandé un travail de plusieurs années. Vous voyez, c'est un petit livre, hein, ça a l'air comme ça tout simple, c'est voulu que ce soit un manuel maniable. Mais en fait, il y a eu un investissement très important de culture juive qui a été nécessaire pour ça. Et en plus de ça, il a été nécessaire d'adapter le langage à des oreilles modernes qui seraient capables de comprendre ce que cela veut dire.
Comment est construit votre livre, l'ouvrage? Est-ce que vous avez prévu?
J'ai construit plus ou moins autour des 7 commandements. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Il y a 14 chapitres. Vous avez les lois de l'État. Par exemple, est-ce qu'un État a le droit de partir en guerre? Quelle guerre serait légitime? Est-ce que le viol est puni par la loi? Comment est-ce que l'on répare ses péchés? Le concept de teshuva qui est tellement particulier à Israël, comment est-il appliqué chez les nations? Les interdictions du vol, par exemple, et si j'arrive tous les jours en retard à mon travail, est-ce que je vole mon employeur ou pas? Par exemple, est-ce que j'ai le droit de me servir des épingles à nourrice qui sont là-bas, etc. Donc en fait, ça parle de énormément de choses, de concepts métaphysiques jusqu'aux concepts les plus pratiques de la vie.
Comment vous expliquez l'intérêt croissant que vous constatez, que tout le monde constate pour le noirisme à travers le monde entier? Comment vous l'expliquez?
Je pense que l'existence de l'État d'Israël, l'accomplissement des paroles prophétiques à travers ce retour est très signifiant pour le monde actuel. Dans le subconscient collectif des nations, Israël représente un mystère. Et ce mystère est porteur de l'histoire biblique, c'est-à-dire est-ce que la Bible ne serait pas le recueil à travers lequel nous pouvons lire l'histoire et la comprendre? Or, il semble que, étant donné qu'après quand même près de 2000 ans, le peuple d'Israël continue à être fidèle à l'enseignement de la Bible et à accomplir le projet historique de la Bible, cela laisse beaucoup à penser. Ce n'est pas d'ailleurs tellement étranger à l'accord de paix qui vient d'être conclu entre Israël et les Émirats arabes unis. Il y a donc une transformation du statut d'Israël à travers l'État d'Israël. Sans parler d'un autre élément qui est la crise morale universelle. Aujourd'hui, les idéologies sont, disons, en décadence. On est à la recherche d'un sens. Or, tout le monde peut commencer à se rendre compte qu'il y a une tradition ininterrompue, vieille de 4000 ans, qui traverse l'histoire et qui est portée par Israël. Cela porte naturellement beaucoup d'individus sur Terre à se poser des questions. Quel est l'enseignement de cette tradition pour moi qui ne suis pas fils d'Israël?
Est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de personnes concernées par ce mouvement et dans quelle région surtout ça se manifeste?
Ah oui, alors donc c'est difficile de savoir exactement le chiffre. Le nombre de personnes qui actuellement consciemment se définissent comme des Béné Noirs, qui ont même fait une déclaration officielle de leur appartenance au noachisme dans le monde, à mon sens, tourne autour de 40 000 personnes. Vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais il y a un intérêt qui touche de très grandes couches de population. Or, nous trouvons des groupes noachides, parfois organisés, parfois individuels, dans énormément de nations de la Terre. Je vais vous donner une petite liste exhaustive. La France, l'Angleterre, Allemagne, Pologne, Russie, Ukraine, Taïwan, au Japon, à Singapour, en Inde, tout ça donc pour l'instant c'est Europe et Asie. Nous avons également dans des pays musulmans, parfois au Kazakhstan, à Abu Dhabi, nous avons un petit groupe. Il y a un intérêt, c'est très souvent d'ailleurs caché dans les pays musulmans pour des raisons de sécurité. Et puis en Afrique également, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Vous avez également en Australie et évidemment en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, en grand nombre, et également en Amérique latine, nous avons plusieurs communautés.
C'est-à-dire pratiquement
donc, vous voyez que
le monde entier.
Ça comporte à peu près toute la planète. Si je fais une liste, ça fait quelque chose comme 60 pays dans lesquels nous avons différents groupes de ce genre. Et nous sommes en contact permanent par Internet, parfois par des rencontres. Avant l'épisode de la corona, moi-même ou d'autres personnes affiliées à notre mouvement se rendaient dans les différents pays concernés. Très récemment encore, un de nos délégués a eu un contact avec un village entier en Ukraine qui respecte les lois noachides et même une grande partie des lois du judaïsme.
Quelles sont les questions, la question peut-être qui vous est le plus souvent posée, Rav Cherki?
Oui, en général, ce sont des questions de relations familiales. Souvent, vous avez des couples, par exemple, où un des conjoints est noachide, tandis que l'autre ne l'est pas du tout, ou même parfois tombe dans le paganisme. C'est un cas que nous avons eu en Inde. Comment se comporter dans ce genre de cas? Est-ce que je peux me rendre à une cérémonie religieuse de ma famille, alors que cette religion n'est pas admise par le noachisme? Ce sont des choses de ce genre
De
que
la
nous
vie
trouvons
concrète, oui.
souvent, évidemment.
Et enfin, quel est l'écho de ce mouvement en Israël? Est-ce que votre démarche est soutenue par les autorités rabbiniques? Est-ce qu'il y a parfois des réticences à promouvoir, si je puis dire, ce statut noachide?
Bon, évidemment, des réticences, vous en aurez toujours, c'est humain. Mais étant donné que nous sommes, disons, tout à fait ancrés dans la tradition rabbinique et talmudique, en fait, on ne peut rien nous reprocher, sinon sur des points de détail. Vous savez qu'entre les rabbins, il y a souvent des controverses, même pour les lois qui concernent les juifs. Alors pourquoi n'y aurait-il pas des controverses pour les lois des non-juifs? Ce qui d'ailleurs entraîne souvent un grand désarroi chez les noachides eux-mêmes, qui se disent, mais enfin, si vous n'êtes pas d'accord sur les instructions à nous donner, qu'est-ce que vous voulez que nous faisions? Mais en général, ce sont des points de détail, par exemple, la manière de respecter le Shabbat, est-ce que c'est autorisé? L'étude de la Torah, est-ce que c'est autorisé? Dans quelle mesure? Et des choses de ce genre. Mais pour ce qui est d'un soutien rabbinique, en fait, nous avons un très large éventail de soutien direct. Nous avons des approbations écrites et publiées des grands rabbins d'Israël, ainsi que du précédent du feu Rav Mordechai Eliyahu, et de beaucoup d'autorités rabbiniques, dont vous trouverez d'ailleurs la liste dans le Shulchan Aruch. Il y a également une lettre de soutien assez intéressante de la part du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui très chaleureusement soutient notre démarche.
Vous pensez qu'il y a une conscience politique aussi en Israël de l'importance non seulement du rôle d'Israël au plan international, mais aussi de son rayonnement spirituel?
Absolument. Vous savez qu'en politique, il y a toujours un lien entre les relations internationales, économiques et autres, et les dimensions culturelles et spirituelles. Alors évidemment, au niveau des autorités politiques en Israël, étant donné que les mouvements évangéliques et toutes sortes de choses de ce genre sont beaucoup plus nombreux que les noachides, alors évidemment, il y a un poids beaucoup plus important accordé aux relations avec les chrétiens amis d'Israël, ce pour lequel je n'ai pas de problème, simplement c'est un autre discours que celui que je transmets. Mais de toute manière, certains personnages politiques considèrent qu'on ne peut pas établir à long terme une relation politique de paix et d'entente avec les nations sans qu'il y ait également des échanges au niveau spirituel.
Quelles sont les perspectives de ce mouvement maintenant, Rav Cherki, finalement son développement, comment vous voyez la suite?
Alors, le développement, il s'agit effectivement d'encourager la création de nombreuses communautés, de plus en plus, effectivement, de temps en temps, nous apprenons, tel et tel groupe est intéressé à recevoir de notre part des idées, des instructions. Nous avons d'abord comme projet de diffuser dans le monde entier une sorte de boîte du noachisme qui comporterait également le rituel de prière, le livre de loi, un drapeau d'Israël, une médaille, également une petite caisse de charité et des instructions comment créer une communauté. Alors nous avons commencé déjà à identifier, à localiser des dirigeants parmi les nations qui sont intéressés à reprendre le message, à reprendre le flambeau. Et nous avons pour l'instant deux projets qui sont en établissement. Tout d'abord, un congrès mondial du noachisme qui se tiendrait à Jérusalem et auquel participeraient donc ses dirigeants, également des rabbins et des hommes politiques d'Israël, la classe politique. Évidemment, nous avons également un autre projet, c'est de créer une institution permanente qu'on appellerait la Maison des Nations à Jérusalem, qui serait une sorte de centre de visite dans lequel on viendrait se rendre compte de ce que c'est qu'Israël pour les nations, qu'est-ce que la Torah d'Israël a alors proposé, et dans lequel se ferait un échange culturel très important. Dans cette maison des nations, également, il y aurait une possibilité de faire déposition de son statut de noachide et donc d'entretenir en permanence une relation Israël et les nations de la Terre.
Merci beaucoup, Rav Cherki, d'avoir accepté de nous présenter ainsi ce mouvement. Donc le livre de loi en français, c'est pour cette année 5780.
Je suppose que dans 2 mois, ça sera disponible sur le marché.
Voilà, donc on renvoie à ce livre et puis on renvoie aussi au site internet Brit Olam, donc pour avoir plus d'explications sur ce mouvement qui est souvent laissé dans l'ombre finalement, alors que manifestement il se produit.
Ça prend de l'ampleur.
Ça prend de l'ampleur. Merci Rav Cherki encore
et bonne fête de Soukhot
puisque nous sommes à quelques jours de Soukhot. Merci à tous pour votre attention.